en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Une heure sur Phare FM, la radio autrement, dans la nuit autrement. Bienvenue. Encore un beau programme qui vous attend. J'espère que vous allez bien.
La Bible dit :
celui qui pardonne une faute aura des amis. Et s'il en parle sans arrêt, ses amis partiront.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Thunder pouring like like rain down on the mountains of all my mistakes, rolling like rivers, running with grace into the ocean of your embrace. Your hand on my side, leading the way. 10,000 horses couldn't pull me away. I hear the music heaven has made. Oh, and we're standing, standing face to face.
J'espère que vous allez bien. On est encore ensemble jusqu'à 5h avec de la belle musique et puis quelques rendez-vous à ne pas manquer. D'ailleurs, votre prochain rendez-vous, c'est avec Christian Gagneux tout à l'heure. Il nous parle de certitude dans Pain de vie. Un peu plus tard, les langages de l'amour où il sera question de la femme qui est une partenaire. Et puis de la musique, tout de suite Philippe Viguier, bien et moi, suivi de Brian et la chanson qui pense. Je vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de Phare FM et bon courage si vous travaillez.
Minuit 5h.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
Viens et vois, maître mon sauveur en croix. Viens et vois, maître mon sauveur en croix. Oh, 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 comprends pourquoi parfois je tremble, tremble, tremble. Viens et vois de leur lance. Viens et vois de leurs lances ils l'ont percé. Oh, 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 comprends pourquoi parfois je tremble. Viens et vois, dans la tombe il est porté. Viens et vois, dans la tombe il est porté. quand j'y vois Jésus est ressuscité.
Se lever le matin, penser que tout ne sert à rien, ne plus pouvoir cacher ton chagrin, alors qu'au fond ça fait du bien. Je me rappelle de tous nous deux, quand je ne pensais à plus rien, seulement à te plaire, être amoureux, alors qu'au fond c'était en vain. Alors tu penses, tu rigoles, tu ressasses et tu pleures. Alors tu penses que tu penses pas, mais c'est quoi cette douleur? Alors t'y penses, t'y penses, t'y penses et tu dis ça, que tu pourras jamais, jamais oublier cette histoire-là. Et t'y penses, penses, t'y penses aussi, ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense, pense, j'y pense aussi, mon absence, t'y penses aussi. T'as beau embrasser d'autres femmes, t'auras plus jamais cette même flamme qui brûle en toi, en nous, en vous. Quand tu deviens fou dès qu'elle t'appelle mon chou, on se dit toujours que c'est pour la vie, à toujours faire le mec surpris. Tu dis toujours qu'elle reviendra, que ses affaires seront toujours chez toi. Alors t'y penses, tu rigoles, tu ressasses et tu pleures. Alors tu penses que t'y penses pas, mais c'est quoi cette douleur? Alors t'y penses, t'y penses, t'y penses et tu dis ça, tu pourras jamais, jamais oublier cette histoire-là. Et tu penses, penses, tu penses aussi, ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense, pense, j'y pense aussi, mon absence, ah, tu penses aussi. Waouh, oh, oh, waouh, oh, oh. Tu l'oublies, t'oublies ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle serait. Au beau moment passé, aux instants de regret. Alors t'y penses et tu grandis. Et t'y penses aussi. Ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense aussi. Mon absence, t'y penses aussi. Et t'y penses, penses, t'y penses aussi. Ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense, penses, j'y pense aussi. Mon absence, t'y penses aussi.
Place maintenant votre message plein de vie avec le pasteur Christian Gagneux.
La certitude et la sécurité. Il peut paraître banal de dire que l'avenir est incertain. Il est même difficile pour certains. Il est dur à imaginer. Quand on voit les perspectives d'avenir qui se présentent devant nous aujourd'hui, on peut peut-être avoir peur, certaines personnes peuvent avoir peur. La société se sent menacée par toutes sortes de choses. Autrefois, eh bien, c'était les épidémies qui menaçaient la société, qui faisaient peur, et les guerres. Aujourd'hui, c'est toujours les épidémies. Elles ont d'autres noms. Avant, c'était la peste. Aujourd'hui, c'est le sida, c'est les cancers, c'est toutes sortes d'épidémies, la grippe aviaire, toutes sortes de choses qui sèment le trouble dans les cœurs. Aujourd'hui, c'est toujours les guerres et ou les bruits de guerre qui font peur. Mais en plus, nous avons un ensemble de problèmes créés par la vie moderne qui constituent, eh bien, je crois, des fardeaux supplémentaires sur les êtres humains et sur la société actuelle, que ce soit en France ou ailleurs, dans le monde d'ailleurs. Ces nouveaux problèmes sont la pollution atmosphérique, pollution de l'eau, la fonte des glaciers, réchauffement de la planète, tempêtes, etc., sécheresse ailleurs, toutes sortes de choses nouvelles que l'on entend. La vie moderne apporte ces maux nouveaux qui font peur et de plus en plus. D'autres ont peur des menaces nucléaires. On entendait récemment encore un président d'un pays que je n'ai pas besoin de citer qui menaçait d'utiliser ses armes atomiques très prochainement contre Israël. Les conditions de travail deviennent également de plus en plus difficiles. Le chômage également frappe à nos portes. Les grands de ce monde parlent de paix, mais force est de constater qu'il n'y a pas de paix. Jérémie, chapitre 8, verset 11, nous dit d'ailleurs « Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix ». Tout cela produit un climat de malaise et de panique, parfois chez certains, qui trouble les esprits et dérègle les personnes. Il y a bien sûr des prises de conscience, des prises de position, des mesures de protection qui sont prises, mais est-ce que cela suffit pour apporter la paix, le calme, la sérénité? Je ne le crois pas. Jamais on n'a connu autant d'assureurs et de compagnies d'assurance que de nos jours. On assure quasiment tout aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? On peut trouver des assurances pour tout, contre tous les risques possibles et imaginables. Les primes augmentent, ça tout le monde le voit. Les primes augmentent, les garanties s'étendent également. Mais avec tout cela, l'homme assuré n'est pas du tout rassuré. Pas plus que s'il n'avait pas d'assurance. On comprend alors que beaucoup de gens sont remplis de désillusions et que les médecins ont beaucoup de travail et que les psychiatres ne chôment pas. On a recours aux calmants, aux somnifères, à l'alcool, à la drogue pour échapper, eh bien, aux tristes réalités quotidiennes. C'est le thème principal du message. Je l'ai appelé « certitude dans l'incertitude, sécurité dans l'insécurité ». L'homme, dans sa nature, a horreur de l'incertitude. Il veut savoir où il va. Et l'homme a besoin d'être rassuré. Alors, c'est pas étonnant de voir beaucoup de gens consulter des voyantes, des devins et toutes sortes de gens pour connaître leur avenir. Pourquoi? Parce que l'avenir fait peur. Il est incertain. Alors on veut savoir, on a besoin de savoir, alors on va voir ces gens-là. Je lisais l'autre jour, la voyante n'avait rien vu. En fait, c'est un inspecteur du fisc qui était allé rendre une visite chez une voyante. Il s'est fait passer pour un client et au bout du compte, il lui a fait la facture. Elle n'avait pas vu qu'elle avait affaire à un inspecteur du fisc. C'était le titre, la voyante n'avait rien vu. Alors, aujourd'hui, la question est, qu'est-ce qui peut me donner une vraie assurance pour l'avenir? Moi, je me réjouis parce que, depuis le commencement, on a entendu parler de la foi. Et je crois que la foi seule peut nous donner une vraie assurance quant à l'avenir qui est devant nous. La foi, et je vous propose d'ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des Hébreux, au chapitre 11... Au verset 1, Samuel nous a déjà récité un extrait de ce chapitre. Et je me réjouis de la conduite de Dieu. Et c'est pour moi un encouragement. C'est comme si Dieu me dit, tu vois, je prépare le terrain, vas-y. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. Est-ce que nous aussi nous attendons cette cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur ? Oui, Dieu est l'architecte de la création, Dieu est l'architecte de cette terre dans laquelle nous vivons et de laquelle nous jouissons de diverses choses, oui, mais il est aussi l'architecte de la cité céleste. À l'architecte de la maison qu'il m'a préparée dans les cieux. Et ça me réjouit. Amen. Ça vous réjouit de penser à votre déménagement prochain ? Les choses vont tellement vite ici-bas. Eh oui, pour ceux qui pensent qu'ils n'auront plus à déménager, c'est faux, vous allez déménager encore une fois. Mais là, je vous garantis, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Juste à être prêt. À être prêt dans votre relation avec Dieu. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est la confiance, une confiance totale dans la fidélité de Dieu. C'est vraiment une conviction de ce que Dieu déclare, que ce que Dieu déclare est vrai. Ce que Dieu dit est une réalité et ce qu'il promet s'accomplira. Amen. La foi est une ferme assurance. Elle est une garantie, un fondement solide, la réalisation de ce que Dieu a promis. Elle est la preuve, la démonstration, la certitude des choses qu'on espère. Voilà ce qu'est la foi. Elle ne se limite pas à des possibilités, mais pénètre dans le royaume de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. La foi commence là où s'arrête le possible. Si c'est possible, alors Dieu ne retire aucune gloire. Mais dans l'impossible, alors Dieu retire toute la gloire. George Muller l'a dit, les difficultés sont la nourriture de notre foi. Notre foi va grandir parce que justement, nous allons rencontrer et nous rencontrons des difficultés dans notre vie. Ce sont les difficultés de la vie qui vont nous faire grandir dans la foi et qui vont nous permettre de nous rapprocher de plus en plus de Dieu. Chacun de nous avons nos lots de luttes, de combats, de difficultés, pour certains plus grandes que pour d'autres. C'est une réalité, il ne faut pas le nier. Mais tous, nous avons à exercer notre foi pour sortir vainqueurs de ces temps de lutte, de ces temps de combat. Pour ma part, j'ai envie de ressembler à Abraham. C'est pas facile de quitter un endroit où on a des marques, des repères, un endroit où la vie paraissait simple, partir vers l'inconnu, parce que Dieu l'a demandé. Sommes-nous prêts à le faire ? Sommes-nous prêts à abandonner nos marques, nos repères ? Et obéir à ce que Dieu veut. Parfois, Dieu nous demande des choses difficiles dans notre vie, des choses qui ont un prix. Je me souviens lorsque l'on m'a demandé de travailler à plein temps dans l'Église, ma première réaction était de dire non. C'était la première réaction de mon épouse également, parce que c'était un choix difficile pour tous les deux. J'avais un excellent travail, je gagnais très bien ma vie, et je savais très bien que si je quittais cet emploi, j'allais perdre la moitié de mon salaire. C'était pas un choix facile. Et dans un premier temps, j'avais refusé. Mais à partir de ce moment-là, je n'avais plus la paix dans mon cœur. Je n'avais plus la joie dans mon cœur. Et sans arrêt, j'étais troublé. Et je me rappelais, 23 ans auparavant, au moment de mon baptême, où Dieu m'avait dit, au travers d'une parole, d'une prophétie, qu'il m'appelait à le servir à plein temps. Parfois, nous sommes devant des choix difficiles. Comme Abraham, il nous faut accepter parfois d'abandonner notre petit confort et partir vers l'inconnu, partir dans l'incertitude du lendemain. On l'a vu tout à l'heure, aucun de nous ne sait ce que l'avenir nous réserve, et l'avenir est incertain pour tout le monde. Mais il avait la certitude, Abraham, il avait la certitude de la présence de Dieu, la présence active de Dieu. Et c'est ce qui peut nous rendre forts dans notre démarche. Lorsque nous voyons Dieu à l'œuvre dans nos vies, alors nous sommes sûrs que nous sommes sur le bon chemin. Lorsque nous voyons Dieu exaucer nos prières, lorsque nous voyons Dieu conduire nos vies quotidiennes, lorsque nous voyons Dieu ouvrir des portes, donner des directions, alors nous savons que nous sommes près de lui. Dieu précédait Abraham, Dieu l'accompagnait et Dieu fermait la marche. Cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait d'erreur. C'est d'ailleurs rassurant pour nous de voir Abraham faire des erreurs aussi. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a jamais eu de problème. Souvenez-vous, à un moment, à deux reprises d'ailleurs, il entrait dans un lieu inconnu et pour ne pas avoir des problèmes avec les gens de ce pays-là, il a raconté aux gens qui le questionnaient que Sarah, son épouse, était sa sœur, parce qu'il avait peur de mourir. Cela nous prouve qu'Abraham était un homme comme nous. Il avait des craintes, lui aussi. Il avait des craintes, il avait des peurs. Il était même prêt, pour sauver sa peau, à sacrifier sa femme. Mais en tout cas, je suis rassuré par ces histoires et ces problèmes qui me prouvent qu'Abraham n'était pas un être exceptionnel, n'était pas un homme hors du commun, c'était un terrien, avec des qualités, avec des défauts, et certainement les mêmes que les nôtres. Ce qui a été valable pour Abraham l'est encore pour nous aujourd'hui. Et si nous avançons dans l'obéissance de la foi, nous allons voir des merveilles dans nos vies. Amen. Je vois que ça en réjouit quelques-uns au premier rang. J'ai envie de voir l'œuvre de Dieu dans ma vie. J'ai envie de participer à la gloire de Dieu dans cette société, à l'accomplissement des plans de Dieu pour notre pays de France. Dans quel domaine et dans quelles circonstances Dieu vous demande-t-il aujourd'hui d'avoir foi en lui? Il y a des choses dans ma vie où j'ai besoin d'avoir foi en Dieu. Chacun a ses luttes, je l'ai dit tout à l'heure, chacun ses difficultés. Il y a des frères, des sœurs qui sont au chômage, ça vient de leur arriver, je l'ai entendu encore l'autre jour. Et puis il y a tout un monde qui s'écroule quand on apprend une nouvelle pareille. C'est peut-être la maladie d'un fils ou d'une fille, c'est peut-être une maladie qui nous atteint nous personnellement, ça peut être un tas de choses. Nous ne savons pas ce que nous réserve le temps à venir ou les temps à venir. Mais nous savons que le Seigneur sera avec nous, si nous sommes avec lui. Amen. Nous devons donc veiller à lui rester attachés. Souvenez-vous, attaché veut dire coller, adhérer. Il y a quelque temps, j'avais parlé de ça, rester attaché à Dieu. J'avais dit qu'il ne fallait pas avoir une foi élastique, qu'il fallait mettre une ceinture et non pas des bretelles spirituelles, bien sûr, hein. Parce qu'au bout d'un moment, les bretelles perdent leur élasticité et on est de plus en plus loin de Dieu. On n'est plus en contact avec lui. Dans le Proverbe, chapitre 3, verset 26, il est écrit « Le Seigneur sera ton assurance. Il préservera tes pieds de tout piège. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. » Est-ce que le Seigneur est votre assurance ? Je désire de tout mon cœur que le Seigneur soit mon assurance. Je ne veux pas que l'argent soit mon assurance. Je ne veux que rien d'autre soit mon assurance que le Seigneur. C'est lui mon assurance. Sécurité dans l'insécurité. Le roi David savait où était sa sécurité. Dans le psaume 4, verset 8, il est dit « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Au moment où David écrivait ça, il était pourchassé par des ennemis, et des ennemis il en avait. Même ses propres fils, il avait même un de ses fils, Absalom, qui cherchait à le faire mourir. Et pourtant, David était capable de dire qu'il était en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il était en contact avec Dieu, en relation proche avec Dieu. Il parlait avec Dieu, il était l'ami de Dieu. Est-ce qu'il était parfait, David ? Tout le monde connaît sa vie. Tout le monde sait que David n'était pas parfait et qu'il avait lui aussi fait dans sa vie des choses abominables. Mais il avait eu la faculté de revenir vers l'Éternel, de s'humilier, de demander pardon à Dieu, de refaire alliance avec lui, de continuer son chemin avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Dans cette vie pleine d'insécurité, il y a un chemin sur lequel nous pouvons avancer en sécurité. Les images bibliques qui illustrent la sécurité sont nombreuses. On nous parle d'asile, de tours fortes, de tours hautes, de remparts, de forteresses, de rochers, d'abris. Toutes ces images indiquent qu'il y a un seuil à franchir. Il faut y pénétrer et y demeurer. Cette porte, c'est Jésus. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Ce lieu sûr, c'est Jésus. Cet abri sûr, c'est lui. Ma paix, c'est Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Et mon espérance, c'est toujours lui. Est-ce que Jésus est votre espérance ? Même si on essaye de démontrer avec force et vigueur que Jésus est un mythe, que sa résurrection est une histoire qui ne tient pas debout, de plus en plus, on met la pression. Le diable sait que son temps est compté et il essaye avec force et vigueur de démontrer que Jésus n'a pas existé ou en tout cas que sa résurrection n'est qu'une affabulation. Est-ce que cela change le monde dans lequel nous vivons ? Non, je ne le crois pas. Je crois que en acceptant Jésus-Christ, c'est nous qui changeons. C'est pas le monde qui change, mais c'est nous-mêmes qui changeons. Ce changement nous donne un autre regard sur le monde, une autre vision des choses. L'acceptation de Jésus-Christ dans nos vies nous permet d'avoir du recul par rapport au monde. Elle nous donne également un but à notre vie. Et la joie de participer au plan de Dieu pour le monde. Mais ne voyez pas les choses de manière sombre. Dites-vous simplement que vous faites partie du plan de Dieu et que vous avez un rôle à jouer, que vous êtes en train de jouer un rôle important dans la main de Dieu pour la société actuelle. C'est ce qu'il faut se dire, parce que c'est une réalité. Les gens autour de nous qui ne connaissent pas Jésus n'ont pas d'espérance. C'est pour cela qu'il y a tant de misère, tant de gens qui se prennent la vie, qui se droguent et qui font toutes sortes de choses. Nous avons un avantage extraordinaire, c'est de connaître Jésus-Christ. Bien sûr, nous vivons et nous vivrons encore des temps difficiles, mais restons dans le calme, dans la paix. Israël fut accablé pendant 4 siècles en Égypte, 4 siècles d'esclavage. Plus tard, Israël a encore été déporté à Babylone. Israël a toujours été environné d'ennemis et c'est encore valable aujourd'hui. On le lit dans la presse. Le désir de beaucoup de nations qui sont autour d'Israël, c'est de chasser les Juifs, de les jeter à la mer. C'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on lit encore dans les journaux. Mais chaque fois qu'Israël mettait sa confiance en l'Éternel, personne, ni aucun élément naturel n'a pu l'empêcher de progresser. Souvenez-vous, lorsqu'Israël était dans cet endroit terrible, qu'Épi à Hiroth, cet endroit alors qu'ils venaient de sortir d'Égypte. Ils étaient heureux, ils avaient emporté beaucoup de choses avec eux, ils avaient vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils étaient partis dans le désert et ils arrivent à un endroit où Dieu les a emmenés. C'est Dieu qui a dit à Moïse, détourne-toi, va à Épi à Hiroth. Cet endroit terrible où ils étaient dans un véritable piège, dans un véritable cul-de-sac où il n'y avait aucune solution. À droite et à gauche des montagnes, devant eux, la mer Rouge, derrière eux, les Égyptiens qui arrivaient pour les tuer. Aucune solution, en tout cas apparente. C'est ce qui nous arrive parfois dans notre vie. Il nous semble parfois, eh bien, que nous sommes dans un cul-de-sac. Il n'y a aucune solution pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans une situation terrible, tu ne m'entends pas, c'est ce que le peuple disait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On disait à Moïse, il aurait mieux valu qu'on meure en Égypte. Les murmures sont montés. Dans telles circonstances, ce que Dieu attend, ce n'est pas nos murmures. Ce qu'il attend, c'est notre foi. Je conçois que c'est difficile lorsqu'on se trouve à Épi à Hiroth, dans le Épi à Hiroth de notre vie. Je conçois que c'est difficile d'avoir la foi. Mais la foi a permis à Moïse de voir la mer Rouge se fendre et de voir traverser le peuple entier à pied sec et de voir ensuite l'armée de Pharaon entièrement détruite. Épi à Hiroth, c'est l'endroit où parfois Dieu nous veut pour mettre notre foi en application. Il en sera de même pour nous qui plaçons notre confiance en Jésus. Nous verrons des choses extraordinaires se passer dans nos vies. Amen. Nous verrons des choses extraordinaires se passer dans nos vies. Il ne faut pas avoir peur de ce que nous voyons avec nos yeux, de ce que nous entendons avec nos oreilles. N'ayons pas peur de ce que nous voyons, n'ayons pas peur du diagnostic des médecins, même s'il est terrible. Restons attachés à Dieu et à son plan, à sa décision, à lui. J'avais lu un jour quelque chose qui m'a encouragé. Ça s'est passé il y a bien longtemps, il y a 500 ans. La reine d'Angleterre, Marie Tudor, qui a vécu de 1516 à 1581, était surnommée Marie la Sanguinaire. Elle fit périr plus de 300 chrétiens sur le bûcher. Et elle laissa en prison beaucoup de chrétiens. L'un d'eux, Bernard Gilpin, fut à son tour condamné à mourir pour sa foi. Et il était enfermé dans cette terrible tour qui existe encore aujourd'hui, la Tour de Londres, célèbre. Cet homme répétait toujours la même parole qui se trouve dans Romains 8, 26. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il répétait cela à longueur de journée. Tous les jours, il répétait cela. Il n'était pas découragé. Il venait d'apprendre qu'il était condamné à mort. Mais il faisait confiance, une confiance totale à Dieu. Un jour, Bernard Gilpin fit une chute dans l'escalier de la tour et se cassa la jambe. Et tandis qu'il hurlait de douleur, le gardien se moqua de sa foi et de son texte préféré et lui disait « Ah ah, vous n'allez tout de même pas me dire cette fois que cette jambe cassée est une bonne chose qui vous arrive. » Et Gilpin lui répondit « C'est pourtant vrai puisque Dieu l'a dit. Toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, même quand nous ne les comprenons pas. » En fait, le lendemain était le jour prévu pour l'exécution de Gilpin. Mais avec sa jambe cassée, le transport était devenu difficile et posait un problème. Alors on l'a laissé momentanément dans sa cellule, en prison. Peu de temps après, Marie Tudor mourut. Élisabeth Ier monta sur le trône et fit aussitôt arrêter les persécutions. Quelques jours plus tard, Bernard Gilpin fut mis en liberté. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même une jambe cassée, même parfois des choses plus terribles. Lorsqu'on lit la Bible, on voit que des serviteurs de Dieu ont terriblement souffert. Il y a eu des martyrs, et il y a eu une raison. Dieu a sa raison, et nous devons accepter la raison de Dieu. Dieu veut nous encourager à l'écouter. Arrêtez-vous quelques instants et regardez la nature et ses merveilles. Un autre encouragement. On ne prend pas assez le temps de regarder les choses merveilleuses que Dieu a faites, toutes simples, autour de nous. La Bible dit que Dieu prend soin des petits moineaux. Observez les petits moineaux, ils sont extraordinaires. Ils sont fantastiques. Il n'y a aucun avion qui peut voler aussi bien qu'un moineau. Ils sont parfaits. J'ai tout un document sur les moineaux, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement fantastique. La structure des plumes, etc., leur poids, leur digestion. Ils ont des yeux 8 fois plus développés que ceux des hommes. C'est extraordinaire. Ils ont une toute petite cervelle, on dit cervelle de moineau, hein. Et pourtant, cette petite cervelle est capable d'enregistrer 8 fois plus, rien qu'au niveau de la vision, 8 fois plus de données que nous n'en recevons dans notre gros cerveau, cervelle de moineau. En Chine, à une époque, on a tout fait pour éradiquer les moineaux, on a tout fait pour les chasser, les détruire. Ils ont failli disparaître de Chine pendant un moment, vous savez pourquoi ? Parce qu'on estimait qu'ils faisaient trop de dégâts dans les greniers à riz et les greniers à mil. Mais très vite, très très vite, on s'est aperçu que les moineaux étaient très très utiles, parce que le riz et le mil était foutu en un rien de temps à cause de la vermine qu'il y avait dedans. En fait, les moineaux venaient manger la vermine. Bien sûr, de temps en temps, ils mangeaient des grains de riz, mais ce qui les intéressait en premier, c'était la vermine qui était dans le grain. Alors bien vite, on a laissé de nouveau la place aux moineaux. Leurs deux pattes sont des véritables catapultes. Quand on regarde un moineau sur une branche, on a l'impression qu'il est debout sur ses pattes. N'est-ce pas ? Quand on voit un moineau comme ça, ben absolument pas, il n'est jamais debout, il est accroupi. Et le moindre bruit, vous avez déjà vu partir un moineau ? C'est une vraie catapulte, ses jambes. Une force incroyable, des vrais ressorts, les merveilles de Dieu. Moi, j'ai envie de faire confiance à celui qui a créé le moineau. Dieu nous dit dans la Genèse, il nous démontre que nous sommes sa créature préférée. Et qui nous aime forcément bien plus que les petits moineaux, moi j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de lui faire confiance. Il faudrait conclure, le temps passe. Devant l'inconnu des jours à venir, il y a le connu de la foi. Cette certitude, cette assurance que Dieu est avec nous, qu'il ouvre les portes, qu'il a préparé le chemin. Dans les endroits où il y a des précipices vertigineux, il a préparé un chemin pour nous. En tout cas pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui veulent le suivre. La foi nous apporte ce qu'aucune idéologie, aucune religion ne peut nous apporter. Aucun psychiatre, aucun médecin, aucune drogue. La foi. Dans l'insécurité, il y a la sécurité de Dieu. Dans l'incertitude, il y a la certitude de Dieu. Dans les ténèbres, brille la lumière de la parole de Dieu. Sa parole est extraordinaire. Combien de fois n'ai-je pas trouvé de réponse à mes questions, à mes dilemmes, à mes problèmes, simplement en ouvrant ma Bible ? Elle est une lumière sur mon sentier, sur mon chemin. Alors avec assurance, nous pouvons donc avancer dans les temps les plus incertains, en nous appuyant sur les promesses de Dieu et en les proclamant de notre bouche, en les proclamant de notre bouche, comme l'a fait Gilles Pin lorsqu'il était en prison, quelle que soit notre situation, proclamons la parole de Dieu, proclamons la parole de foi au travers de notre bouche, que notre foi soit connue de tous, même si elle dérange parfois. Elle peut déranger, c'est vrai. Mais tant pis si la foi dérange. La foi plaît à Dieu. C'est la seule chose qui plaît à Dieu, notre foi, notre confiance en lui. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. J'en sais rien. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Amen. Mon désir, c'est que tu le saches aujourd'hui.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Phare FM chez vous, en voiture, au travail. Phare FM, écoutez.
Used to wake up in the morning with my past stuck in my head. Yesterday weighing me down before I even got up out of bed. But now I wake up singing a song that sounds like grace. And anyone can see that something's changed. Ask me why I'm smiling. Ask me why I'm free. shine even when the rain falls. What's alright even when it's all wrong. Ain't no secret, Jesus is why. Why I can finally be the me he made me to be. Yeah, I just signed a new lease on life. Ask me why I'm smiling. Ask me why I'm free. Ask me why there's joy, joy, joy inside of me. My heart has found its reason to wake up every day. So ask me why I'm smiling. And this is what I'll say. Jesus is why.
Que 2h10 sur Phare FM, on vient d'entendre Jesus is Why de Hannah Kerr. On poursuit notre programme musical avant de retrouver les langages de l'amour, Coldplay de Scientist et tout de suite Sylvain de Tout, les jours qui restent sur la radio Autrement, dans la nuit Autrement. Très bonne écoute.
Ce soir, on n'irait pas danser très tard. Même si c'est pas ton genre, je sais. Même si tu es plutôt discret. On parlera de tout, de rien. On fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on aurait pu être, mais
qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent. Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent.
Même refrain, jamais le temps de rien. Dans l'océan, gardez le lien. Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains. Les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance.
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Bientôt, comme on l'entend à la radio. Nous on est là, c'est déjà ça. La vie, le taf, ça va, ça va. Un jour viendra, nous partirons. Mais d'ici là,
qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent. Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent.
Qu'est-ce qu'on en fera.
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent. Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent.
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Come up to- it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.
Les langages de l'amour.
Pour le mari aimant, l'épouse est une partenaire. Une femme, après avoir été courtisée, n'est pas dans son foyer pour être admirée par tous comme un trophée d'un tableau de chasse. C'est une personne vivante avec laquelle on peut communiquer. Ce n'est pas une personne à dominer et à contrôler pour satisfaire ses propres désirs. C'est une personne digne d'être connue et dont on peut apprendre des choses. La notion d'épouse-partenaire est aussi vieille que le monde. Dans l'histoire de la création racontée dans le livre de la Genèse, la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. C'est une description qui représente son rôle de partenaire. L'ordre a été donné à l'homme et à la femme d'assujettir la terre et de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les autres créatures vivantes. L'ordre n'a pas été donné à l'homme d'assujettir sa femme. Il lui a été dit de devenir une seule chair avec elle. Nous sommes différents, mais cette différence était voulue par Dieu pour que nous puissions nous compléter. Le mari, qui considère sa femme comme une partenaire, a fait le premier pas pour devenir un dirigeant aimant dans son mariage.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago, en partenariat avec Phare FM.
Phare FM, l'émotion partagée.
A stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So
right,
sing
there
along to my stereo.
Two class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note.
Yeah, come on.
Make
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, 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 oh. Make me your radio. Come on. Turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along, sing to my stereo. Because good music can be so hard to find.
So hard to find.
I'll take your hand and hold it closer to mine.
Yeah.